Vous écoutez
RMC.
RMC.
La Liga, elle est plus forte que la Liga et ça, j'en suis persuadé.
Je suis un fan de galettes, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'adore le wingman aussi, donc la cuisine bretonne me va très bien.
Je l'attendais. Et que ça vienne d'RMC, je n'en doutais pas.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Simon Dutin.
La dernière heure de l'After Foot, on est ensemble en direct jusqu'à minuit sur RMC. Frédéric Piquion, Kevin Diaz, Jonathan Macardy autour de moi pour commenter l'actualité à l'étranger désormais. Pour une fois qu'on a un peu de temps d'installer nos drôles de dames sur le canapé de l'After et de papoter un peu avec elles. On va en profiter parce que même si le suspense n'est plus au même niveau selon les championnats, il n'y a qu'en Espagne finalement qu'on ne connaît pas encore le champion. On va regarder un petit peu derrière notre épaule, commencer à tirer les premiers bilans de ces saisons. On va commencer avec la saison en Serie A et l'Italie avec notre Johan Crochet. Salut Johan.
Bonsoir messieurs, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va, nickel.
Salut Yo.
Alors, grosse journée, je le disais, 37e journée de Serie A demain, à partir de demain, marquée par le choc, le derby d'Italie entre la Juve et l'Inter. La Juve qui affronte le champion italien.
Exactement, et justement c'est un choc, alors à la fois parce que c'est un choc historique et que ce derby d'Italie passionne toujours autant quelles que soient les positions au classement des deux équipes, et puis j'ai envie de dire qu'il passionne encore un peu plus cette année puisque la Juve qui accueille l'Inter est dans une position un petit peu délicate et que l'Inter déjà champion peut clairement enfoncer la Juve en cas de victoire à Turin demain. Donc au-delà même de tout l'aspect historique, rivalité, il y a aussi évidemment un aspect sportif très très important sur lequel on insiste depuis quelques jours en Italie, parce que
la Juve cinquième, on le rappelle, 72 points actuellement hors des places pour la Ligue des Champions, l'Inter champion avec 88 points, 16 points d'avance sur la Juventus.
Exactement, et c'est simple, la Juve n'a pas son destin entre les mains, voilà. Il faut espérer gagner les deux matchs, ça c'est clair, et puis derrière espérer un faux pas du Napoli, du Milan ou de l'Atalanta. Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est que si le Milan et l'Atalanta gagnent ce week-end, ils seront en Ligue des Champions. Puisque même si la Juve gagne, ils ont l'avantage lors des confrontations directes avec la Juve, l'Atalanta et le Milan, et donc ils seront qualifiés en Ligue des Champions. Du côté de la Juve, c'est une saison qui est très compliqué, sincèrement, je me répète un peu à l'antenne à chaque fois, mais c'est vrai que cette saison a pas très bien commencé. On espérait voir un peu de progrès à la fois dans le jeu, dans les résultats, dans l'affirmation de l'entraîneur Andrea Pirlo, dans l'affirmation de certains joueurs aussi. Et en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on n'a rien vu de tout ça et que alors évidemment on n'en connaît pas encore le résultat de cette saison, mais si on part sur une hypothèse de la Juve qui ne serait pas en Ligue des Champions, on serait sur des gros changements. Et je pense qu'on mesure même pas encore complètement les conséquences que ça pourrait avoir, parce que il pourrait y avoir des changements au niveau des dirigeants. Par exemple, Andrea Agnelli n'est pas certain de rester, parce que je le rappelle, la Juve est contrôlée par une holding qui s'appelle Exor, qui est la propriété de la famille Agnelli au sens très large, dont John Elkann est le président. Et donc on pourrait avoir un changement de président à la Juve. Même chose pour le vice-président.
D'autant qu'il n'a pas été inoubliable avec cette histoire de Super League.
C'est ça, en fait. Il y a un double problème. C'est que à l'échec plus ou moins sportif, si la Juve arrive cinquième, tu auras aussi le rôle clé qu'il a eu dans le projet de Super League avec la révolte des fans. Et même à Turin, on a eu des banderoles devant l'Allianz Stadium de supporters en colère qui étaient totalement opposés à la Super League. Donc c'est vrai qu'il est dans une position un petit peu inconfortable. Et puis si on descend même au niveau des dirigeants, Paratici, le responsable du football, sorte de grand directeur sportif de la Juve, il n'est pas certain de rester non plus, déjà parce qu'il est en fin de contrat, et ensuite parce que on commence à avoir des petites relations tendues, notamment avec Nedved. Il y a eu une prise de bec lors du dernier match sur le parking avant que le bus reparte, parce que concrètement il y a une opposition de point de vue, c'est-à-dire que Paratici était prêt à sacrifier Pirlo pour la fin de la saison parce qu'il voyait bien que c'était un peu compliqué, et du côté de Nedved on continue à soutenir Pirlo, et d'ailleurs Nedved a déclaré il y a 2-3 jours là que a priori Pirlo continuerait la saison prochaine. Donc il y a les dirigeants, il y a l'entraîneur Pirlo quid de son avenir, parce que très sincèrement, même s'il finit quatrième, moi je suis pas certain qu'il continue, parce que c'est très compliqué, qu'avec les joueurs il y a des rapports qui sont pas forcément excellents, et puis surtout la vérité du terrain, tout simplement, c'est que dans le jeu, bon bah il se passe rien quoi. Bah,
on a eu l'impression que cette saison elle tardait à démarrer, elle allait démarrer et finalement on a l'impression que la Juve n'a jamais trouvé ni de rythme de croisière ni de style de jeu vraiment identifié. Kevin sur la Juve.
Bah, c'est quand même Johan la saison cauchemar quoi pour la Juve. Le rival de l'Inter qui est champion, cette histoire de Super League qui plombe l'image du club en Italie. Bon, apparemment en Italie, c'est soit tu aimes, soit tu détestes la Juve, d'après ce que j'ai compris. Donc ça va pas trop changer. Mais à l'international, pour Agnelli, le choix de Pirlo qui pouvait, allez, on va dire, pourquoi pas se tenter. Mais bon, après Sarri, tu prends un entraîneur ultra expérimenté contre un novice.
Mais c'est un peu bizarre. En fait, Kevin, la saison, elle démarre bizarrement parce que en 9 jours, tu fais passer Andrea Pirlo de ton entraîneur de la réserve, que tu viens tout juste de recruter pour être entraîneur de la réserve, à ton effectif professionnel. Et là, tu te dis quand même, qu'est-ce qui s'est passé en 9 jours pour que tu prennes un entraîneur novice en disant que tu vas l'accompagner dans son nouveau rôle d'entraîneur qui va commencer avec l'équipe U23 à « je vais être dans un vestiaire hyper compliqué ». Alors ok, il a connu des vestiaires compliqués, Pirlo, en tant que joueur, mais là, il n'était pas copain avec les autres joueurs. Quand tu passes de joueur à entraîneur, t'as une hiérarchie qui s'impose automatiquement avec les joueurs. Et puis t'as aussi le fait que t'as des jeunes joueurs qui ont pas forcément la même image que de Pirlo, que l'aura qu'il avait en tant que joueur. Donc cette saison, elle a démarré très bizarrement et elle pourrait se conclure de manière un peu dramatique. Alors sur l'image de la Juve, je sais pas si en fait, pour élargir même aux 3 derniers clubs qui composent la Super League, je sais pas si c'est l'image du club qui est écornée ou plutôt des dirigeants. Moi, j'ai le sentiment qu'on en veut beaucoup aux dirigeants.
Oui. Non, mais
qui ont embarqué leur club, tu vois, là-dedans. Je suis pas sûr que la Juve, le Real ou le Barça,
non, mais je suis d'accord, je parle globalement.
Mais Johan, petite question, mais j'ai une idée de la réponse, mais la Juve, c'est le club le plus détesté d'Italie.
Oui, c'est le plus aimé, le plus détesté.
Voilà. Ouais, c'est donc ça. Bon. C'est
il suffisait d'une étincelle qui, en l'occurrence, c'est la Super League pour que voilà, ça prenne des proportions qui dépassent le cadre d'entendement.
Mais après, footballistiquement, la Juve, bon, ils ont quand même des manques cette saison et c'est aussi ça qui les plombe, quoi.
Bien sûr. Non, voilà, mais bien sûr, on peut pas tout mettre non plus sur le dos de voilà, la Super League a plombé la saison de la Juve ou la fin de saison de la Juve. Moi, je suis.
Non, mais Johan, j'allais juste te dire, pardonne-moi, est-ce que il n'y a pas eu beaucoup, peut-être trop d'ambition tactiquement de la part de Pirlo, qui a quand même voulu révolutionner cette équipe avec notamment les pistons. Je pense à Kulusevski là qui jouait devant à part, mais qui s'est retrouvé à bouffer de la craie côté droit ou côté gauche.
À droite.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un trop plein d'ambition de Pirlo? Est-ce qu'il s'est pas vu trop beau en arrivant tout simplement sur le banc, quoi?
Alors trop beau, je sais pas, parce que ça voudrait dire que les entraîneurs qui ont de l'ambition, qui veulent prendre des risques, seraient peut-être un peu, je cherche le mot, mais seraient un peu hautains dans leur manière d'aborder le football. Moi, je pense que c'est pas ça. Je conçois que Pirlo, et je l'avais dit en début de saison, il veut amener beaucoup de choses, beaucoup de changements. Quand tu l'écoutais, quand tu lisais sa thèse, il y avait beaucoup de choses qu'il voulait apporter. Effectivement, il s'en est plaint très rapidement, il avait pas le temps de bosser pour ça. Est-ce qu'il aurait dû bifurquer un peu sur un autre style en se disant cette saison il y a pas le temps, voilà, ouais, c'est comme ça, saison de Covid, on n'a pas le temps de travailler, etc. Et on passe sur un autre projet et puis en année 2, comme tu le dis, on verra, on aura peut-être plus le temps, une vraie pré-saison, parce que la Juve n'a pas eu de pré-saison non plus et ça compte, et on aura le temps de mettre les choses en place. Mais en fait, j'ai envie de te dire, le problème c'est que même depuis l'élimination en Ligue des Champions, il se passe rien. Ouais, c'est-à-dire que là, Pirlo, il a le temps, ça fait 2 mois qu'il a le temps de travailler.
Ouais,
en fait, on a une Juve. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que on a une Juve sans identité. C'est-à-dire que tu peux me dire que c'est Bologne, je te crois. Tu fermes les yeux, tu vois pas les maillots, tu me dis que c'est Bologne, je suis d'accord avec toi.
J'ai lu quelque chose cette semaine, et nous, en tout cas, moi, je l'ai dit pour le Paris Saint-Germain il y a quelques mois, voire il y a quelques années maintenant. J'ai lu que Sarri, est-ce que c'est vrai que Sarri aurait dit quand il est parti et quand il s'est fait virer, de toute façon, vous pouvez me virer, cette équipe, elle est inentraînable?
Mais oui, parce que.
Mais je suis d'accord avec lui, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les statuts et oui. l'histoire et le vécu de cette équipe fait qu'un entraîneur qui vient avec des principes qui vont peut-être un peu révolutionner ou ne serait-ce que changer un peu la manière de jouer de ses joueurs et les sortir un peu de leur confort, c'est pas possible. Ça ressemble à une fin de cycle, quoi.
C'est vrai en partie parce que, attention, les joueurs qui ont des statuts, Buffon n'est pas forcément un titulaire, Chiellini
oui,
ne
bien,
partait pas pour
bien.
Être un titulaire. Donc au final, t'avais qui? T'avais Bonucci et le statut XXL de Ronaldo, c'est un peu maigre, je trouve, comme explication. Donc, parce que t'as rafraîchi le groupe avec les Chiesa,
ouais,
les
mais
Kouzeski,
t'as Rabiot qui a un caractère difficile. T'as Morata qui doit pas être non plus le dernier pour
Morata, c'est un vrai joueur d'équipe. Il pose
oui.
pas trop de problèmes.
Oui, mais ça reste des joueurs qui ont de l'expérience, donc ils sont pas les plus malléables, tu vois.
Je peux entendre ce que tu dis, Kevin, mais je vais compléter la question à Johan. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais la venue de Ronaldo, c'est une opportunité. Mais quand tu lui donnes le salaire que tu lui donnes, certes, il te rapporte des revenus marketing, mais là, je voyais passer sur SoFoot là le rapport du cabinet KPMG qui explique ouais. qu'en fait, les revenus engendrés par la venue de Ronaldo en termes de vente de maillots, en termes d'image, etc., ne suffisent pas à compenser le salaire énorme qui lui est donné. Est-ce qu'au final, tu n'étais pas tiré une balle dans le pied en t'empêchant d'améliorer ton équipe plus homogène, d'une manière plus homogène?
C'est pour ça que je faisais la comparaison.
Alors, Il y a deux choses, Kevin, Jonathan, pardon. La première, c'est que je sais pas si on peut faire beaucoup de reproches à Ronaldo.
C'est vrai.
Vu les trois saisons qu'il vient de faire à la Juve.
Il vient d'atteindre les 100 buts, hein, je crois.
Mais on reproche rien à Ronaldo. C'est la la politique, tu vois.
Ouais,
c'est le
mais
mécanisme.
Si tu veux,
c'est le mécanisme.
T'as aussi des joueurs qui ont le droit d'hisser leur niveau de jeu.
Bien sûr.
Oui, parce que si tu vas par là, Bernardeschi, il a coûté 50 millions d'euros ou 45.
40 millions d'euros, ouais, mais en fait, moi, je pense que les torts, ils sont vraiment partagés et je trouve ça un peu délicat de tout mettre sur le dos de Pirlo, le cas, ou même des dirigeants, parce que effectivement, il y a une cascade de décisions. C'est les dirigeants qui prennent Pirlo et c'est ensuite Pirlo qui doit gérer l'équipe. Donc, t'as une cascade de décisions qui amène une
saison. Mais la première décision, finalement, c'est pas le départ d'Allegri.
Ah bah si, mais ça c'est évident. Mais ouais. Allegri, on sait pourquoi il est parti. Il est parti parce que Nedved et Paratici on pensait que c'était le bon moment pour ouvrir un nouveau cycle. Et aussi parce qu'il y avait un style de jeu qui entrait maintenant en conflit avec une bonne partie des supporters qui voulaient voir autre chose.
Juste une petite question, Johan, c'est Fred. Il y a énormément de supporters de la Juve et même d'observateurs de la Juve qui disent que Ronaldo, quand il arrive dans un groupe, il éteint les joueurs qui sont autour de lui.
Ah, mais bien sûr, parce que
tu es OK avec ça.
Mais parce que le danger, c'est que tu donnes la balle à Ronaldo et t'attends qu'il crée quelque chose, t'attends qu'il fasse la décision.
Même si
c'est comme la même chose avec le Barça avec Messi, tu donnais le ballon à Messi et c'est lui qui réussissait à résoudre les matchs, en fait. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que les joueurs ne doivent surtout pas être mis de côté dans les responsabilités de la saison en cours. Parce que je suis désolé, t'as des joueurs qui doivent faire beaucoup mieux. Les Bonucci, les Alexandro, les Rabiot, les Ramsey, les Dybala, tout ça, les Bernardeschi, tout ça, ça doit faire mieux.
Ouais, Dybala, il est blessé toute la saison.
Johan,
il est blessé aussi?
Je peux pas m'empêcher de te rejoindre parce que tu as raison. Même Chiesa, j'ai pas trouvé qu'il était pas forcément à son niveau.
Je pense qu'il
peut faire quand même mieux.
T'en as deux ou trois à sauver dans la saison quand même. C'est Chiesa, c'est Matthijs de Ligt en défense, Danilo quand même qui est aussi à sauver.
Danilo, oui.
Et puis il m'en manque un que j'avais en tête, mais
Morata,
bah, Ronaldo évidemment.
C'est pas mal. Hein.
Johan, je peux pas m'empêcher quand même de penser que la Juve au cœur des années 2010, je pense notamment, la saison, par exemple, on va prendre la saison 2013-2014. Tu regardes l'effectif.
Il y a quand même. Terrain, tu vas me
c'est beaucoup plus homogène. C'est beaucoup plus homogène. T'as beaucoup plus. T'as peut-être pas une superstar comme Cristiano Ronaldo, mais t'as quand même Pogba. T'as quand même Marquisio. Il y a Pirlo. Il y a Arturo Vidal. Il y a Mauricio Isla. Il y a Carlos Tevez. Il y a Vucinic. Il y a quand même, je pense, plus de bons joueurs.
Ah bah de toute façon
parce que Pogba il devient Pogba à la Juve, hein. Il arrive, il est gratuit, hein. Il arrive pas en étant, tu vois, c'est grâce à la Juve qu'il devient Paul Pogba. Hein. Donc
cette année-là il est énorme.
Ouais, mais si tu veux, moi je suis désolé quand on me dit Pirlo, il avait pas le matériel. Ok, il manque de joueurs fonctionnels, notamment au milieu de terrain. Mais attendez, vous allez me faire croire que tu peux pas faire mieux que ce que la Juve a fait cette saison avec Dybala, Ronaldo, Morata, Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Arthur, McKennie, Bonucci, De Ligt, Chiellini, Demiral, Danilo, Alexandro. Vous allez me faire croire qu'on peut pas faire mieux que ce qu'on a vu cette saison, à la fois en termes de résultats et
peut-être,
et de jeu. Moi, je suis désolé. Il y a des joueurs aussi qu'on
C'est difficile à défendre, en effet, Johan.
Bah voilà, moi je trouve que les joueurs sont un peu trop tranquilles, et en termes de mentalité, peut-être que l'entraîneur a pas réussi à faire passer le message qu'il voulait faire passer, l'exigence qu'il voulait faire passer. Ça paraît très crédible, mais il y a aussi des joueurs qui ont clairement manqué d'exigence. Pierre-Loup en a parlé encore récemment. McKenny, il fait 4 mois super en début de saison, et derrière il prend des kilos, hygiène de vie absolument catastrophique, et ils ont dit McKenny, on l'a mis au régime, quoi. Voilà, il y a des joueurs qui clairement manquent d'exigence.
Et les Américains, ça mange des hamburgers.
Club comme la Juve, où t'avais des leaders, et je suis désolé, les leaders n'ont pas joué leur rôle non plus cette saison. Les Buffon, Chiellini, Bonucci. Il y a 5 ou 6 ans, ce qui s'est passé avec McKenny, ça n'arrivait pas. C'était impossible que ça arrive, parce que McKenny, avec 4 kilos en trop, il prenait 2 tartes et il entamait le régime directement. Et je suis désolé, il y a des cadres aussi qui ont lâché trop rapidement cette saison, parce que certains étaient trop peu utilisés à leur goût. Peut-être étaient pas contents de la façon de jouer, du management de Pirlo, peu importe. Mais il faudra surtout pas oublier que ces joueurs-là, qui ont fait dégager Sarri, parce que c'est des joueurs qui ont aussi été en opposition avec Sarri, qui accueillaient Pirlo les bras grands ouverts, parce que Pirlo est ancien joueur proche d'eux, il avait joué avec eux, etc. Et résultat, aujourd'hui ils font partie de la mauvaise saison de la Juve. Il faudra pas les oublier.
Johan, il y en a un qui boit du petit lait, et ça pourrait vraiment ajouter au malheur de la Juve. C'est Antonio Conte, évidemment, qui a été champion avec la Juve, désormais champion avec l'Inter. Il a annoncé, j'ai vu là dans les médias italiens, qu'il serait sans pitié. Il a annoncé qu'il mettait la grosse équipe demain, même s'ils sont déjà champions. Il a vraiment envie de les enfoncer.
En fait, il suffit de se souvenir de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Ça devait être en février de mémoire, janvier ou février, je sais plus. C'était Juve-Inter, et à l'Allianz Stadium, il y avait eu, entre les dirigeants de la Juve qui avaient insulté Antonio Conte, en plus dans un stade d'huis clos, vous dites bien que tout s'entend.
Oui, on entend mieux.
Et Antonio Conte qui s'était retourné en leur faisant un doigt d'honneur. Ça vous plante un peu le décor de ce qu'on va avoir demain et de l'ambition. On reverra sans doute pas les mêmes choses, et tant mieux, parce que c'est pas des comportements appropriés. C'est le témoin de l'ambition de Conte demain. De s'il peut enfoncer la Juve, il le fera avec un énorme plaisir. Et puis dans cette rivalité Inter-Juve, non seulement tu gagnes le titre de champion en mettant fin à l'hégémonie de la Juve, et en plus si tu peux les priver de Ligue des Champions, clairement du côté des supporters, on a une double raison de faire la fête quand les mesures sanitaires le permettront. Mais oui, il va mettre la grosse équipe, on la connaît, c'est tous les titulaires habituels, l'équipe de fin de saison qui, à partir du mois de janvier, février, a accéléré et n'a pas perdu un match, en fait, tout simplement. Donc, grosse équipe, gros match. La Juve doit se réveiller parce que le match contre Sassuolo, ça peut très mal tourner aussi. Ça a bien tourné parce qu'il gagne 3-1, mais à 0-0, il y a un pénalty arrêté par Buffon. Ça, c'était donc mercredi. Un pénalty arrêté par Buffon, des grosses occasions ratées par, de mémoire, Traoré, des tirs alors qu'il est en très très bonne position pour frapper au but. Donc il faudra pas reproduire le même début de match. Et ce qui fait un peu bizarre, c'est que t'as l'impression que la Juve joue avec la peur, alors que c'était vraiment pas un truc, ou en tout cas entame ses matchs avec de la crainte, de la peur et du stress, et c'était pas vraiment une habitude.
Tu penses quoi, Johan? On parlait de Sassuolo, des déclarations de Locatelli de la semaine sur le PSG.
J'en pense,
je sais pas quoi en penser. Qu'il y a quelque chose?
J'ai lu, ce qui est certain, c'est que Locatelli va partir. Alors après, il faudra qu'il y ait l'offre qui correspond, mais je pense que Sassuolo lui fera pas de tort, entre guillemets, il bloquera pas son départ si la somme s'approche de ce qu'ils veulent. Et après, tu vois, Locatelli, il était promis à la Juve. Sauf que si la Juve finit pas dans les 4 premiers.
Ouais.
Problème à la fois pour le recruter. Alors Locatelli, je pense qu'il irait quand même dans une Juve qui finit cinquième, parce que ça représente quand même un sacré, un niveau d'écart suffisant. Oui. Voilà, c'est le palier que je cherchais, un sacré palier à franchir. Mais c'est plutôt comment le recruter pour la Juve.
Tu nous dis deux mots pour les supporters parisiens qui ne le connaîtraient pas.
Oh, c'est un super joueur, honnêtement. C'est un milieu de terrain qui est assez polyvalent, parce que à Sassuolo il joue dans un milieu à deux, donc en double pivot, souvent avec Maxime Lopez ou avec Pedro Obiang. En sélection nationale, il joue dans un milieu à trois. C'est quelqu'un qui peut jouer devant la défense, ou en Italie on les appelle les mezzala, c'est-à-dire les relayeurs, les milieux d'aile, comme on dit en Italie. C'est quelqu'un qui a Alors techniquement, il a toujours été très doué, même quand il est sorti du Milan. C'est-à-dire que techniquement, vous verrez que c'est très très propre dans la technique de passe, dans les contrôles, l'orientation du corps pour sortir de la pression. Tout ça, il sait faire. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé aussi sur la dynamique, sur les mouvements, la prise d'espace et notamment sur ses capacités physiques, parce qu'il apporte beaucoup, il accompagne beaucoup les actions. Et c'est le premier aussi à venir redescendre quand il y a une transition défensive. Donc c'est un très beau joueur, très élégant, très intelligent, comme l'Italie arrive à en faire pas mal ces dernières années. Et c'est un milieu de terrain dont je n'ai absolument aucun doute sur le fait que les supporters parisiens pourraient tomber amoureux assez rapidement.
En fait. Et tu fais bien de parler de son intelligence, parce qu'on peut recommander hein, son interview chez nos confrères de l'équipe dans la semaine pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que effectivement son discours c'est celui d'un mec qui a la tête sur les épaules tout de même et qui a connu les galères. On se souvient, il avait marqué un très beau but contre la Juventus justement, qui avait donné la victoire au Milan alors qu'il était très jeune. Et bon, il sous-entend que c'est allé quasiment un peu vite pour lui.
Oui, le club l'a peut-être pas totalement protégé non plus de toutes les comparaisons qui ont été faites. Exactement. Dans les médias très rapidement après ce but-là, en fait.
Ouais, c'est très italien. En un mot, Johan, derby romain qui a un petit peu moins de lustre que les années passées, mais on a vu un José Mourinho qui bosse déjà sur ses logiciels, qui va suivre ça d'un œil attentif, comme évidemment tous les habitants de la cité éternelle.
Bien sûr. Alors, je commence juste vite fait par la Lazio, parce que c'est quand même le club le mieux classé, et c'est aussi celui qui a le plus d'ambition, parce que la Lazio n'est pas encore éliminée de la Ligue des Champions, parce qu'ils ont un match en retard. Donc il faudra forcément un concours de circonstances et que des équipes devant perdent des points, mais il faut pas encore les éliminer. Cette équipe de la Lazio vraiment a fait une très belle saison. Alors ça peut vous paraître bizarre, parce que les Niners étaient dans les 4 premiers, et là s'ils sont 6e, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'ils nous racontent s'ils font une belle saison. Mais il faut pas oublier le parcours en Ligue des Champions dans un groupe qui était pas simple, notamment avec Dortmund et le Zenit, où ils font vraiment de très très belles prestations. Il y a beaucoup de personnes qui avaient un peu peur de voir cette équipe de la Lazio en Ligue des Champions, disant ça fait tellement longtemps qu'ils n'y sont pas allés. Et en fait, ils ont vraiment fait honneur à l'Italie, tout simplement, parce qu'ils ont non seulement eu des résultats, en plus des résultats à une époque où il y avait 10-12 cas de Covid et où ils voyageaient à 15-16 joueurs plus des joueurs du centre de formation. Et cette équipe de la Lazio, autour de ses cadres de Acerbi en défense, de Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva au milieu et de Immobilier devant, est une équipe qui est très verticale, comme on aime les voir un peu maintenant, c'est-à-dire une équipe qui mise un peu tout sur les transitions, qui n'a pas forcément faire beaucoup de pressing, mais qui a une telle qualité technique au milieu de terrain et des joueurs de côté qui vont tellement vite que c'est une très belle équipe. Donc ça, c'était pour la Lazio. Et rapidement sur Mourinho, en fait c'est très très simple. On a l'impression que la Roma a déjà basculé dans l'ère Mourinho alors qu'il n'est pas encore là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est comment Fonseca est revenu à un schéma en 4-2-3-1 qui est annoncé comme le schéma de Mourinho la saison prochaine, alors qu'il jouait dans une défense à 3, en se disant est-ce qu'il n'est pas en train de préparer le terrain pour Mourinho. C'est-à-dire en mettant un milieu à 3, enfin un 4-2-3-1, donc 3 joueurs derrière l'attaquant avec des vrais ailiers. On verra, mais c'est un peu le baroud d'honneur de la Roma et aussi de Fonseca, qui n'a toujours pas remporté de derby depuis qu'il est à Rome.
Ouais. Mais c'est vraiment dommage pour lui, parce que je trouve quand même la Roma, ils ont quand même des joueurs de qualité. Après, ils prennent effectivement beaucoup de buts, mais pour les avoir vus,
ça a été intéressant par moment cette saison. Je suis d'accord avec toi.
Les deux matchs contre Manchester, c'est pas dégueulasse, quoi. Je veux dire.
Non, mais en fait, si tu veux, ça a été intéressant, mais en fait, alors déjà, ce qu'il faudra reconnaître à Paulo Fonseca, c'est que quand t'as autant de blessés dans une saison, là, pour vous donner une idée, c'est bête, je l'ai noté quelque part, mais je l'ai pas sous les yeux.
Il a pas été annoncé à Lyon, pardon de te couper d'ailleurs.
Ça fait partie visiblement des rumeurs. J'ai pas d'infos là-dessus, donc je peux pas te dire. Je l'ai lu comme vous dans la presse française. Au niveau des blessures, la Roma doit en être à peu près à 58 ou 59 blessures dans la saison.
Il a repris Agnolo ou pas?
Non, mais il reprendra pas de la saison. Et là, il préfère le garder, le faire reprendre tranquillement, parce qu'il a repris trop vite la dernière fois.
Mais il va pas partir.
Non, absolument pas. Non, la Roma compte sur lui et ils sacrifieront pas Zaniolo.
J'ai peur pour lui avec Fonseca, Mourinho.
Oui, ça dépendra de l'état d'esprit de Zaniolo.
C'est toujours pareil avec Mourinho. Le taquine un peu en début de saison en disant qu'il est pas au niveau ou quelque chose comme ça pour le faire progresser comme il a déjà fait avec d'autres.
C'est au joueur de répondre.
Il va peut-être falloir que Mourinho aussi change de méthode, parce que ça a pas trop marché ces derniers temps.
C'est vrai, il peut aussi s'adapter. Juste pour finir sur Fonseca quand même, voilà, 59 blessures dans la saison, il y en avait eu 50 musculaires, hein, simplement plus, enfin 59 blessures en tout, plus 15 cas de Covid. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire quand une saison est aussi mal embarquée que à partir effectivement jusqu'à janvier, c'est intéressant. Et après, ils ont perdu Mkhitaryan, ils ont perdu Spinazzola, et là ils font la fin de saison sans Veretout, beaucoup trop de blessés.
Et d'autant qu'il y avait une véritable ambition effectivement dans le dans la façon de jouer de. Oui, mais je parle même sur dans la manifestation de la tactique sur le terrain. Moi, j'ai été très agréablement surpris par cette équipe de la Roma.
Je finis juste là-dessus. C'est une équipe qui ressemblait beaucoup à la Lazio. C'est-à-dire qu'elle était partie à l'arrivée de Fonseca sur un jeu de possession à outrance, parce que c'était le jeu de Fonseca, c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il faisait au Shakhtar. Et petit à petit, ça fait un peu un mode miroir avec ce que faisait la Lazio. Et c'est devenu une équipe sur transition qui allait très très vite, avec des joueurs de côté qui vont très très vite, avec un Veretout qui accompagne beaucoup les occasions, avec des joueurs techniques devant qui sont capables de faire la différence. Malheureusement, il y a Fonseca qui n'a pas réussi à mettre en place un système qui permettait de protéger aussi sa défense. Ça, c'est vrai, on ne pourra pas l'enlever. Des blessures aussi, des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes, et ça fait une saison qui n'est pas bonne du tout.
Jordan Veretout peut-il être le Frank Lampard de José Mourinho du côté de l'AS Rome?
Veretout avec Mourinho, ça peut être très intéressant.
En tout cas, il a sacrément progressé.
J'espère qu'il sera dans la liste de Didier Deschamps.
Et oui, réponse, idem. Réponse dans 4 jours.
Ça sera compliqué, messieurs, il ne va pas rejouer la saison.
Il est dans la mienne,
en tout cas. Ça va être très compliqué, même s'il pourrait en être physiquement, ça me paraît compliqué.
Ça paraît râpé, en effet. Merci beaucoup, Johan, d'avoir le crochet.
Salut, messieurs. C'était très sympa.
Et bah pour une fois qu'on a un petit peu de temps, on rappelle, Juve.
Faudra qu'on parle du Napoli une fois.
Juve Inter.
Avec grand plaisir.
La saison, ça a été un film avec Gattuso et tout, faudra en parler.
Oh, avec De Laurentiis surtout.
Oui.
Le Napoli qui a mieux fini qu'il ne l'a terminé. Merci beaucoup, Johan, et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
La botte italienne, vous restez avec nous. Dernière ligne droite de l'afterfoot dans un instant. Après l'Italie, direction l'Allemagne. Hier, le Borussia a atomisé Leipzig en finale de Coupe d'Allemagne. Un Leipzig qui va pas très fort en cette fin de saison. On sera avec Paulo Breitner dans un instant. À tout de suite.